L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'autre radio, l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui vendredi 11 décembre, à 2 semaines de Noël, et oui, ça passe très très vite. Bonjour Claire.
Bonjour Marie, bonjour tout le monde, de retour. Voilà, hier petite absence, mais ça y est, je suis là.
Mais oui, promis, on est très content que tu sois avec nous, évidemment, dans l'AJT du local. Évidemment, tu restes jusqu'à la fin de l'émission, hein. Pas de,
Pas de faux plans,
évidemment. Aujourd'hui, donc, on va parler justement de la loi sécurité globale qui mobilise toujours ses détracteurs malgré un premier vote par les députés. Rassemblement prévu demain à Laval, porté par la Ligue des droits de l'homme en Mayenne, avec le témoignage de l'une de ses adhérentes que vous entendrez. Quand entretenir des haies permet de compenser les émissions de carbone de ces voitures d'entreprise, c'est le principe du contrat signé entre l'association Solenat, l'entreprise MBPAC et un agriculteur d'Evron. Et notre chronique service civique, comme tous les vendredis, réalisée aujourd'hui par RCF Sarthe, les entretiens à distance, avantages et inconvénients, chacun ses arguments.
Mais tout de suite, Marie, un point sur l'actualité. Le déconfinement sera plus strict qu'annoncé.
Oui, c'est l'actualité du jour. Un pas de réouverture des cinémas, théâtres et musées ce mardi, le 15 décembre, annonce hier du Premier ministre Jean Castex. Le nombre de contaminations par jour devait être en dessous de 5000, ce qui n'est pas encore le cas. En revanche, dès mardi, vous pourrez vous déplacer sans attestation. Un couvre-feu sera en vigueur de 20h à 6h du matin, tous les jours, hormis le 24 décembre pour Noël. Pas d'exception, en revanche, pour le réveillon le 31 décembre. Le Premier ministre rappelle la recommandation pour les repas de fête, 6 adultes maximum autour de la table. Les déplacements entre régions sont autorisés et l'attestation reste obligatoire pour les trajets de nuit sous certaines conditions, pour exercer son activité professionnelle, promener son animal de compagnie ou pour la garde d'enfants.
Nous sommes dans une forme de plateau, voire de légère augmentation.
Jean-Jacques Coiplet, le directeur de l'Agence régionale de santé, appelle à ne pas relâcher les efforts pour contenir l'épidémie de Covid. En Mayenne, les indicateurs peinent à réellement baisser. Le taux d'incidence reste à 103,6 cas pour 100 000 habitants et pour les plus de 65 ans, il s'établit à 155. Les premières vaccinations devraient avoir lieu en janvier, selon l'ARS, pour les résidents des EHPAD et leur personnel, ce qui correspond à 70 000 personnes dans la région.
Leur dernière grève remonte à 24 ans.
Les agents de la direction de la solidarité au conseil départemental de la Mayenne se sont réunis ce matin devant l'hôtel du département. Ils demandent la création de nouvelles structures plus adaptées ainsi que des moyens humains supplémentaires pour répondre aux attentes des Mayennais, faire de la prévention plus que de la protection selon leurs mots.
Le centre-ville lavallois devient piétonnier le dimanche.
Pour permettre de profiter de l'ouverture exceptionnelle des commerces avant les fêtes de fin d'année, une décision prise par la municipalité aussi en raison du dispositif Vigipirate, situé actuellement au niveau urgence attentat. Les rues Charles de Gaulle, Haute-Chiffolière, de Beausoleil, des Déportés et la rue de la Paix seront interdites aux voitures de 14h à 19h ce dimanche et le dimanche 20 décembre. À Château-Gontier, les commerces aussi ouvrent ce dimanche. Ils sont une vingtaine à ouvrir leurs portes le matin, l'après-midi ou bien toute la journée. La liste complète est disponible sur la page Facebook de l'association Castel Shopping. Et puis on rappelle, ce samedi et dimanche a lieu également un marché gourmand place de la République et place Paul Doumer.
Direction la route du Vendée Globe, Fabrice Amédéo, victime d'une avarie informatique.
Oui, c'est compliqué pour le skipper de Newrest Arrêt Fenêtre qui navigue sans ses ordinateurs de bord, donc sans information météo, à l'aide de son seul GPS. Le Segréen prend donc la route au nord-est, vers le Cap de Bonne-Espérance, pour essayer de trouver des conditions plus calmes de navigation. Il est désormais 25e, il étudie même la possibilité de continuer son tour du monde à l'aveugle, on en saura plus dans la journée. Tandis que dans l'océan Indien, Maxime Sorel, sur son bateau Vianby Mayenne, lui, est toujours 11e.
À la une du Haut-Anjou ce vendredi, des enquêteurs sur l'histoire locale.
Ça se passe à Segré en Anjou Bleu. Les membres de la commission Histoire de la ville se penchent sur les archives d'un ancien avocat segréen. Dans votre hebdomadaire, vous pourrez aussi découvrir en photo les coulisses du théâtre des Ursulines à Château-Gontier, où les équipes techniques continuent de s'activer malgré l'absence de représentation. Autre article un peu plus loin sur la gestion de l'épidémie de Covid à l'hôpital de Laval, avec le profil précis des patients admis en réanimation. Et enfin, à Château-Gontier sur Mayenne planche sur une modernisation de l'éclairage public avec un objectif, consommer 10 fois moins.
Et Marie, nouvelle mobilisation à Laval contre la sécurité, la loi sécurité globale. Pardon.
Le premier rassemblement, il y a 15 jours, avait réuni près de 1500 manifestants. Le prochain est prévu demain samedi à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme en Mayenne, avec les 14 mêmes organisations impliquées auparavant. Déjà votée à l'Assemblée nationale, cette loi concernant les forces de l'ordre reste très controversée et mobilise un front d'opposants assez divers. Anne de Georges est adhérente à la Ligue des droits de l'homme en Mayenne et elle nous explique pourquoi.
C'est le danger qui a été bien perçu par la société civile, le danger d'une restriction des libertés individuelles, un danger aussi d'un glissement vers un État qui ne serait plus un État de droit, avec un grand nombre de mesures mettant en danger les droits fondamentaux. Alors il y a plusieurs articles qui posent problème. Le plus connu est l'article 24, qui menace de punir par un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende le fait de diffuser l'image des forces de l'ordre en action. Nous combattons cet article pour deux raisons. La première est que le code pénal et la loi 1881 protègent déjà les forces de l'ordre en punissant le cyberharcèlement, les menaces de mort, la provocation à la commission d'un crime ou d'un délit. La deuxième raison pour laquelle nous sommes contre cet article, c'est que l'intégrité psychique des forces de l'ordre est une notion large et très floue, qui laisse une grande marge d'appréciation. Donc ça leur permettrait d'interrompre ou d'empêcher la captation d'images. Il y a aussi les articles 21 et 22 qui sont relatifs à la vidéoprotection et à la captation d'images. L'article 22 qui légalise la surveillance par drone de l'espace public porte une grave atteinte aux libertés individuelles et au respect de la vie privée. Les images ainsi captées permettront une analyse automatisée par des logiciels de reconnaissance faciale. Le droit de manifester, le droit d'expression d'une manifestation serait mis en danger. Il y a également l'article 21 qui dérégule l'utilisation des caméras mobiles embarquées par les forces de l'ordre. L'agent aura accès à ces images et elles aussi pourront être diffusées en direct au poste de commandement. C'est vraiment tout un contexte sécuritaire que cette loi aggrave et renforce. Ça risque aussi d'amplifier la crise de confiance de la population envers les représentants. La mobilisation doit effectivement continuer puisque la loi passe au Sénat au mois de janvier. Elle sera probablement examinée ensuite par le Conseil constitutionnel. Nous prévoyons donc d'interpeller les sénateurs sur ce sujet puisqu'ils vont examiner ce texte.
Le rassemblement a lieu demain samedi à 15h devant la préfecture à Laval. Une délégation demandera à être reçue par le préfet pour lui communiquer une motion à l'adresse du gouvernement. À terme, la Ligue des droits de l'homme en Mayenne aimerait aussi constituer dans le département un observatoire des libertés pour alerter et défendre les droits des citoyens. Entretenir des haies pour compenser les émissions carbone de ses voitures, c'est le pari de l'entreprise MBPAC qui a signé un contrat avec un agriculteur d'Evron, coordonné par l'association Solenat. Interview à suivre dans quelques minutes, juste après avoir écouté Cage the Elephant, Ready to Let Go.
let go.
Ready to let go de Cage the Elephant sur l'autre radio. Vous écoutez toujours l'agité du local et on parle d'une première dans le département. Un contrat de compensation carbone a été signé entre l'association Solénat, Christophe Bouvet, un agriculteur d'Evron, et l'entreprise MBPAC spécialisée dans les emballages alimentaires. La société s'engage pendant 5 ans à rémunérer l'agriculteur pour entretenir des haies, des arbres qui vont absorber une quantité de carbone équivalente aux émissions de CO2 de la flotte de véhicules de MBPAC. Le dispositif est porté par l'association Solénat, née au printemps dernier. Thomas Gauthier est agriculteur à Renazé et membre du bureau de Solénat.
Solénat, c'est une association de la Chambre d'agriculture des 5 FDSEA de la région Pays de la Loire qui ont créé une association de 1901 pour la vente de carbone, du moins la vente de compensation carbone des entreprises inscrites au RSE.
Alors, est-ce que c'était une demande des entreprises ou c'était vraiment une volonté des agriculteurs?
Non,
comment ça s'est créé?
C'était une volonté de la profession, parce qu'on voit bien que le carbone arrive dans le marché et on voulait pas que ce soit induit dans le prix des filières agricoles, c'est-à-dire dans le prix du lait ou dans le prix de la viande, en fait. On voulait pas que ce soit étouffé dans ces prix-là, donc on a créé une association pour justement que ce soit une activité comme une autre. Moi, sur mon exploitation, je vends du lait, et ben maintenant, à l'avenir aussi, je vendrai aussi de l'achat carbone, de la compensation carbone.
Et alors, justement, pour nos auditeurs qui connaissent pas du tout, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est cette compensation carbone?
Cette compensation carbone, c'est en fait des entreprises qui doivent absorber, réduire leur empreinte carbone, donc soit en le captant par les haies ou par les prairies, soit en faisant du carbone évité. Donc carbone évité, c'est-à-dire on finance les élevages pour éviter qu'ils fassent du carbone avec leurs vaches. Là, on est plutôt dans le captage de carbone par les haies. Donc voilà, donc les entreprises, elles sont inscrites au niveau du RSE, au niveau réseau environnemental, et en fait, celles qui cherchent à faire capter du carbone, en fait, peuvent nous appeler et nous, on peut mettre des agriculteurs avec des haies à disposition pour qu'ils puissent capter du carbone.
Et c'est du coup ce qui s'est passé le 24 novembre dernier à Changé, où il y a eu un premier contrat, justement, de compensation carbone qui a été signé avec MBPAC, donc une entreprise qui est spécialisée, du coup, dans les emballages, donc en soi, sur le papier, aucun rapport avec votre activité d'agriculteur. Quel était l'objectif, quel est l'objectif, du coup, de ce contrat?
MBPAC voulait investir 0,5% de leur chiffre d'affaires dans l'environnement, sur la captation de carbone. On a été en lien avec Sarah Colombier, donc de la Chambre régionale d'agriculture, s'est mis en lien avec Solénat pour justement trouver des agriculteurs dans le pays des Coëvrons, notamment Mayenne, on a trouvé dans le pays des Coëvrons, à côté de chez eux, pour capter en fait le carbone qu'eux voulaient, eux avaient à compenser.
Si on vous donne, par exemple, une tonne, nous on aimerait bien compenser du coup notre émission de CO2 d'une tonne. À quoi ça correspond concrètement en termes d'entretien de haies ou autre?
Eh ben, c'est financé, nous c'est 80 euros la tonne de carbone. Pour nous, en entretien de haies, c'est quasiment une heure de lamier. Alors le lamier, c'est un outil qui sert à tailler les haies. Une heure de lamier, vous faites, ça dépend comment est entretenu la haie, une heure de lamier, une heure de débroussailleuse, ouais, ça fait 100 mètres, un bon 100 mètres de haie entretenu au lamier, quoi.
Et donc l'idée, là, c'est vraiment d'entretenir des haies qui sont déjà existantes, pas forcément d'en planter.
Si, on aura aussi le fait, on aura aussi le projet de planter des haies aussi. Donc de faire planter des haies, parce qu'on n'aura pas assez de haies à capter en carbone, on n'a pas assez de haies existantes. Toutes les entreprises se mettent à faire ça, donc voilà, et s'il y a des gens qui veulent planter des haies, il n'y a pas de problème pour planter des haies et absorber le carbone aussi. Les premières années, la haie ne comptera pas puisqu'elle est trop petite pour capter le carbone, mais au bout de 5 ans, elle sera en âge de capter le carbone.
Et donc du coup, le rôle de l'association, c'est vraiment de mettre en relation donc ces entreprises qui ont envie de s'engager dans cette démarche et des agriculteurs, mais j'imagine que c'est plus large que ça aussi.
Premier temps, c'est ça. C'est mettre en lien les entreprises et les agriculteurs. En fait, Solénat s'occupe en fait de la partie administrative entre les deux parties, en fait, pour que Solénat soit démarche des entreprises privées où ils peuvent venir à nous, et nous on cherche aussi des agriculteurs ou qui viennent aussi à nous. Il y en a déjà qui appellent pour faire compensation carbone. Donc voilà, Selenat a pour but juste en fait de mettre en relation et de gérer le dossier administratif de ça en fait.
Et donc oui, c'était ma prochaine question. Vous avez déjà peut-être une liste d'agriculteurs déjà prêts en fait à s'engager dans ce genre de projet?
Ouais, on en a quelques-uns. Après, c'est à nous d'aller aussi dans nos réunions automnales. Bon, bah, cette année, ça s'est pas fait comme à cause du Covid, mais d'aller présenter le projet dans les assemblées FDSEA cantonales à l'automne et pendant l'hiver. Et élargir aussi, pas qu'aux adhérents. Hein. C'est pas que pour les adhérents de la FDSEA.
C'est aussi qu'il y a un vrai intérêt en fait de part et d'autre, aussi bien pour l'entreprise que pour les agriculteurs.
Oui, les entreprises, de toute façon, l'enjeu carbone à l'avenir va être quelque chose d'assez important. Donc c'est pour ça qu'il fallait y aller. Et les entreprises, ils recherchent aussi ça. Donc c'était de mettre en relation les agriculteurs avec les entreprises sans que nous ici, ça passe par les filières lait et que ça soit mis englobé dans le prix du lait, le prix de la viande en fait. Ça ne va pas être d'énormes revenus, mais ça aidera à entretenir les haies.
Et justement, pour la compensation carbone, l'entretien des haies, voire même la plantation, pour l'instant, c'est l'une des meilleures techniques qui a été trouvée ou...
Pour le moment, nous, on est axé sur ça. On va se développer après. Mais on a fait, puisque aujourd'hui, on travaille avec Herbocage. Donc, c'est quelque chose qui a été labellisé par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement. Et donc, c'est un calcul de captage de carbone par les haies qui est officiel et labellisé par le ministère de l'Écologie et de l'Environnement. À l'avenir, c'est aussi de capter aussi par les prairies. Et aussi, à l'avenir aussi, sur les nattes, c'est de faire notamment des bandes mellifères dans les zones de non-traitement. On voit bien que pour les abeilles, les abeilles et les pollinisateurs, il faut qu'ils aient à manger l'été. On a de moins en moins à manger l'été. Maintenant, on nous a imposé des zones de non-traitement de 5 mètres selon des maisons d'habitation. Et pourquoi pas, justement, faire une compensation mellifère sur ces bandes de 5 mètres de zone non-traitement.
Voilà. Quand vous parlez de zone mellifère, concrètement, c'est quoi?
Les zones mellifères, c'est des plantes, des fleurs, qui sont pour les abeilles, pour produire du miel, en fait. On a des plantes à fleurs qui sont plus mellifères que d'autres, c'est-à-dire qu'elles ont plus sujet à produire du miel avec les abeilles.
Ça fait partie des pistes, en tout cas, que l'association...
Oui, c'est des pistes à l'avenir qu'on voudra développer. Ouais.
L'association a été créée il y a quelques mois désormais. C'est vraiment... On est dans l'air du temps, c'est-à-dire que forcément, cette compensation carbone, elle est amenée à se développer, aussi bien, on le disait, pour les entreprises que pour les agriculteurs.
Bah oui, on voit bien que ça se développe, surtout pour les entreprises. Nous, en agriculture, on était un peu en retard. Ça commence à se poser des questions. On savait pas trop comment ça allait faire, on voulait pas trop de contraintes par rapport à la somme d'argent, voilà, les contraintes, qu'est-ce que ça allait être. Donc en fait, c'est de faire aussi administrativement le minimum de contraintes pour les agriculteurs. Après, ça va être à l'avenir comment ça va se passer, parce que on est que dans le début, et pour le moment, on verra par la suite. Mais oui, c'est un enjeu, un gros enjeu au niveau national, mondial, on voit bien.
C'est aussi une nouvelle corde à votre arc en tant qu'agriculteur, une nouvelle mission en fait.
Oui, c'est une mission qu'on faisait déjà, sauf que aujourd'hui on nous demande de capter un peu plus de carbone, notamment de plus labourer, d'avoir replanté des haies et tout. Sauf que c'est bien de planter des haies, mais après derrière, faut pas que les gens oublient qu'il y a un coût d'entretien des haies et que c'est pas gratuit. Donc soit on le fait mécaniquement, soit on le fait manuellement. Manuellement, quand il n'y en a pas beaucoup, ça se fait, mais quand on commence à avoir des longueurs de haies, il faut le faire mécaniquement. Et donc là, il y a un coût et voilà. Donc en fait, les gens sont pour les haies, mais ils se rendent pas toujours compte de l'entretien des haies derrière et du coût des haies derrière, du coût d'entretien des haies.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de programmes de plantation d'arbres, donc ce qui est très bien, ce qui va dans le bon sens, ouais. Du coup. Mais après, c'est ce que vous disiez, il faut aussi penser à donc l'entretien des haies, et c'est pour ça que là, votre association et donc ces contrats qui sont signés sont importants aussi, puisque ça y est, c'est inscrit dans le contrat, il y a quelqu'un qui s'occupe justement de cet entretien.
Ben, c'est l'agriculteur qui entretient. Mais il y a quelqu'un de l'Office national des forêts qui passe pour lui dire à peu près quand tailler ou pas tailler les années où faut, voilà. Donc l'agriculteur est quand même guidé par rapport à l'entretien. Il y a quelqu'un qui passe pour lui dire ces arbres-là tu peux les tailler, ceux-là tu peux pas les tailler.
Pour avoir cette expertise aussi, puisque j'imagine que vous l'avez pas forcément.
Ah bah non, on l'a pas forcément. Nous, quand, dans le temps, quand on faisait les haies, moi chez mes parents, même moi, des fois on taille, voilà, on est parti, on fait la haie, on y va, quoi. Le lamier, c'est pour le matériel, pour pas abîmer. Après, ça c'est quelque chose qui est fait régulièrement. Mais après, de l'abattage d'arbres ou du gros élagage d'arbres, en fait, là, on est guidé par quelqu'un d'Office national.
Et on a donc une idée, vous le disiez, en tout cas, du nombre de mètres de haies, voire même de kilomètres, je ne sais pas comment c'est calculé, et du CO2 que ça permet d'absorber.
Ça dépend en fait des haies. Chaque haie est différente avec les, chaque variété d'arbre, chaque espèce d'arbre en fait. Vous avez un chêne centenaire ou vous avez un frêne qui a 5 ans ou 6 ans, ils vont pas capter la même capacité de carbone en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a le calcul avec Carbocage, de la Chambre des Pays de la Loire, Chambre d'agriculture des Pays de Loire, qui permet ce calcul-là en fait. C'est pas on inscrit la haie, ça capte tant de carbone. Il y a quelqu'un qui se déplace, qui calcule, qui jauge la haie, qui fait les calculs en fonction des espèces, des variétés. Voilà, c'est un calcul, hein. C'est pas au hasard.
Et donc, c'est vrai que là, on en est encore aux prémices, ça va sans doute se développer, mais il faut que les entreprises, elles aussi, jouent le jeu. Vous pensez que ça va être le cas ?
Bah, je pense que ça va être le cas. On voit bien, environnementalement, ils prennent conscience qu'il y a des choses à faire. Et voilà, ils veulent compenser leur carbone. De toute façon, autrement, après, ça sera des amendes pour eux à l'avenir. Donc voilà, les petites entreprises, non, ils n'ont pas dedans, parce que s'ils exportent pas et tout, ils ont moins de carbone à compenser. Par contre, des grosses entreprises qui font énormément d'exports, énormément de transports, oui, ils auront à compenser du carbone. Donc, il faudra qu'ils trouvent une solution. Voilà, et ça fait partie des solutions qu'on peut leur amener.
Et donc là, MBPAC, c'est une entreprise mayonnaise qui est donc en association avec un agriculteur lui aussi mayennais. L'idée, c'est aussi que ça reste en local ?
Oui et non, selon les entreprises. S'il y a des entreprises qui cherchent vraiment à faire que du local, on cherchera à faire que du local. Après, on fera aussi en fonction des agriculteurs qu'on trouve et en fonction du bocage. On sait que dans le Nord-Mayenne, il y a pas mal de bocages, pas mal de haies. Dans d'autres départements comme en Sarthe ou en Vendée, il y en a moins. Ça se trouve, on compensera plus en Mayenne. Voilà. Bon, le but est d'essayer de faire par département. Après, voilà. Moi, je suis à Ronazy, c'est une entreprise de Segré qui veut compenser du carbone. Je rentrerai dedans. Je suis pas à l'autre bout de la France. Voilà. Et le but, c'est de rester régional, voilà.
Et donc là, vraiment, si on parle vraiment très concrètement, la prochaine étape, après la signature de ce contrat pour Solénat, qu'est-ce que c'est ?
C'est d'aller chercher des entreprises, maintenant qu'on a lancé la machine. C'est de trouver des entreprises et des agriculteurs et de lancer ça. Après, s'attaquer au captage de carbone par les prairies et puis introduire aussi des zones mellifères, voilà. Mais là, pour le moment, c'est de recenser des entreprises qui veulent travailler et des agriculteurs aussi qui veulent... voilà. Parce qu'on peut avoir des entreprises qui veulent compenser, mais il faut aussi qu'on ait des agriculteurs aussi en face qui ont des haies aussi pour capter le carbone. Donc c'est de trouver les agriculteurs et les entreprises pour mettre ça en relation.
Et après, ça peut être en plus des choses à long terme, parce que s'il s'agit de planter des haies et vous disiez que du coup, elles étaient capables de capter suffisamment de carbone à partir de 5 ans, c'est des choses qui vont se réfléchir, j'imagine, à long terme.
Ah bah oui, bah de toute façon, planter une haie, c'est du long terme. Donc oui. Après, là, c'est des contrats de 5 ans qui seront renouvelables si l'entreprise veut, qui sont renégociés et renouvelables. On n'est que dans le début du sujet du carbone aujourd'hui, du moins en milieu rural. Après, au niveau mondial, je pense que ça se discute déjà depuis un moment, mais au niveau rural, on est dans le début.
Juste une dernière question. Est-ce que vous avez connaissance de s'il existe ce genre d'association dans d'autres régions ?
Oui, dans le Finistère, il y en a une. Finistère Bretagne, mais qui vient du Finistère, voilà. Et autrement, on en a une qui chapeaute un peu, qui s'appelle France Carbone Agri, qui elle, par contre, est au niveau national, international, avec des grosses entreprises en fait. Donc là, on joue plus dans la même cour. On travaille aussi en lien avec eux, puisque nous, on est au niveau régional, eux aussi au niveau national. Et tout ce qui est réglementation, on travaille aussi avec eux, puisque on va avoir des mêmes réglementations, prix de la tonne de carbone et tout ça. Donc oui, on travaille en relation avec eux aussi. Ouais.
Même si le taux de carbone dépend des arbres plantés, vous l'avez compris, Carbocage a tout de même fait une estimation. En moyenne, la plantation d'une haie piège 3 à 5 tonnes de CO2 par kilomètre et par an. On revient d'ici quelques minutes, juste après avoir écouté Marie-Flore avec sa chanson « Tout ou rien ».
Tu sens bon. Mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin. Je m'allume une blonde. Tout s'éteint dans tes yeux bleus clins. De façon sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi 2 secondes. Sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi 2 secondes. 2 secondes. Toi, ferme-la, tais-toi, toi tu sais pas quel point, quel tu reviendras peut-être tâter le terrain. Y'a pas de mi-temps, c'est juste la fin. Lâche-moi la main. On verra bien si le sol se dérobe ou si jamais il te retient. Nous deux, c'était rien, non. C'était juste assez pour se faire plus de mal au que de bien. Nous deux, c'était rien. Nous deux, c'était rien.
Marie-Flore sur l'autre radio avec sa chanson « Tout rien ». Vous êtes bien dans l'AJT du local. Et comme chaque vendredi, on fait le tour d'horizon du dispositif service civique avec les radios associatives de la région. Cette semaine, RCF Sarthe est retournée à la cité scolaire La Psalette Saint-Vincent au Mans. Confinement oblige, les entretiens se sont déroulés en visio. Bénéfique pour Célia, la volontaire en service civique qui a été recrutée, mais avec quelques inconvénients pour son tuteur Yannick Gourmille.
S'engager de 6 à 12 mois, c'est ce que font les volontaires en service civique. Depuis 2010, des centaines de milliers de jeunes âgés de 16 à 25 ans, voire 30 ans pour les personnes en situation de handicap, s'engagent au sein d'associations, de fondations, de collectivités territoriales ou encore auprès de services de l'État. 10 ans après la mise en place du dispositif, qu'en pensent celles et ceux qui effectuent ou ont effectué une mission? Et quel constat du côté des structures accueillantes? Volontaire en service civique, un engagement, des réalités, une production des radios associatives en Pays de la Loire.
Lors de la dernière partie de cette enquête, en Sarthe, nous avions rencontré Yannick Gourmille, responsable des animations à la cité scolaire de La Psalette Saint-Vincent au Mans. Il hésitait entre plusieurs services civiques. Finalement, au moment où il a fait son choix, eh bien, ses candidats avaient trouvé d'autres postes. Il a donc dû recommencer tout le processus.
Chaque période de recrutement est unique. L'année dernière, je me suis dit « je ne suis pas allé assez vite ». Et du coup, cette année, je me suis dit « je suis allé trop vite ». Enfin, en fait, je pense que c'est un peu unique, ça dépend vraiment du feeling. Et je me dis que oui, effectivement, j'aurais peut-être pu avoir la première personne que j'avais présélectionnée. Et je n'aurais peut-être pas rencontré Célia, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la même dynamique. Enfin, je pense que c'est un peu unique et je me dis que je verrai au feeling. Et l'année prochaine, je me dirai « alors, qu'est-ce que j'avais fait ?» Je ne sais plus. Donc du coup, je repartirai à zéro et je repartirai avec d'autres constats qui seront différents.
Confinement oblige, les entretiens se sont faits en visio. Pour Célia, la service civique qu'il a recrutée, 23 ans, c'était plutôt bénéfique.
Alors moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais moins stressée. Après, c'est peut-être mon tuteur qui m'a mis à l'aise tout de suite. Le fait qu'on n'est qu'en visio, en fait, on n'a pas quelqu'un en face de nous présent, en fait, ça nous met peut-être moins de stress. Donc ça s'est bien passé. Donc pour moi, je ne jouais pas trop, Je ne jouais pas mes études ni ma vie, en fait, parce que les autres, l'alternance, bah, c'était vachement pour valider notre diplôme ou le stage, c'est pareil, pour valider notre diplôme. Alors que là, c'était plus, je fais quelque chose qui va augmenter mes capacités dans la communication. Mais en même temps, je gagne un petit peu de sous en tant qu'étudiant, c'est toujours agréable.
Pour Yannick, par contre, il y a quelques inconvénients au fait de se voir à distance et de ne pas pouvoir se rencontrer avant le premier jour du service civique.
Avec Célia, la première rencontre a été en visio. Du coup, ben, je pense que ça, c'est une première chose qui montre la différence aussi. C'est autre chose qu'un coup de téléphone. Mais oui, c'est sûr que ce n'est pas la même chose qu'une vraie rencontre physique.
Enfin, je suis arrivée sur l'établissement. Ouais. Je commençais ce jour-là, en fait, et je n'avais jamais vu l'établissement, je ne savais pas où il était. Enfin...
Je pense que c'est vraiment cette dimension-là, la dimension de repère du site, du lieu où on fait l'activité. Je pense que c'est ça la plus grosse différence.
Si Célia a décidé de postuler à ce service civique d'animation à la cité scolaire La Psalette Saint-Vincent au Mans, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé d'alternance pour valider son master en événementiel.
En fait, je cherchais une alternance. Cette année, n'ayant pas trouvé, parce que l'événementiel avec la Covid, c'est un petit peu compliqué, je me suis tournée vers le service civique parce qu'il y a une amie qui m'en a parlé. Et comme j'ai fait pas mal de colonies et que j'ai passé mon BAFA, je me suis dit bah, pourquoi pas dans l'éducation nationale. Oui, j'avais postulé, je crois que c'était au niveau de l'animation culturelle au Mans. Il y avait pas mal de choses. En fait, je voulais mettre quelque chose en lien qui était quand même avec mon projet d'études. Là, je fais de la communication au sein de l'établissement et c'est quand même une grosse partie dans l'événementiel. Donc, en fait, ça m'entraîne. Ça m'entraîne et c'est cool parce que ça se complète.
Le premier jour de Célia a eu lieu en plein confinement, début novembre, mais cela n'a pas eu beaucoup d'impact plus que les activités du collège, elles, se poursuivent.
C'était Volontaire en service civique, un engagement des réalités, une production des radios de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire, en partenariat avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale des Pays de la Loire.
Une chronique à réécouter en podcast sur notre site l'autreradio.fr. Et puis c'est l'heure de notre petite rubrique initiative, présentée cette fois-ci par sa réelle présentatrice Claire, que j'ai essayé de remplacer hier. Et Claire, aujourd'hui, on part dans le village au pied du mont des Avaloirs, où une artiste locale décore les vitrines.
Et oui, à Saint-Pierre-des-Nies, Maude Labrosse, illustratrice et peintre, raconte un conte de Noël sur les vitrines des commerces. La municipalité a eu cette idée pour amener une respiration en ces temps troublés. L'artiste y dessine un ours sur la vitrine de l'opticien, une biche sur celle du boulanger, toujours accompagnée d'un ruban rouge. Toutes ces illustrations créent un conte de Noël. Je cite l'artiste, « L'histoire raconte qu'un ours s'est réveillé en plein hiver. Il faut qu'il retrouve sa tanière. Tous les animaux vont l'aider en accrochant un peu partout des rubans. » Le conte sera bientôt enregistré et disponible sur le site de la mairie de Saint-Pierre-des-Nies.
Et Claire, on parle de plats dans des distributeurs automatiques, c'est ça ?
Oui, oui, tu as bien lu, et oui, c'est ce que propose le traiteur Mélibé. Pour limiter les pertes face à l'arrêt des mariages et du secteur événementiel, François Chartier, responsable de Mélibé Traiteur basé à Bonchamp, a eu la bonne idée de mettre en place des distributeurs automatiques dans les entreprises, avec à l'intérieur des plats et des desserts. Chaque semaine, 5 plats et 4 desserts différents sont proposés. Ces distributeurs sont actuellement dans 2 entreprises de l'agglomération de Laval, le groupe Actual et Seva Santé Animale. Pour le gérant, c'est une solution pour limiter les pertes, mais pas encore la solution. Cela permet de garder le cap malgré une perte entre 65 et 75% de chiffre d'affaires.
Et toujours pour nous donner faim, Claire, les restaurateurs s'invitent chez nous pour les fêtes.
Et oui, on le sait, ils ne pourront réouvrir leurs portes avant minimum le 20 janvier. Les restaurateurs ont donc plein d'initiatives à vous proposer. L'association Mayenne Perspective et la Jeune Chambre Internationale Haute Mayenne lancent l'opération Un Resto Chez Moi. C'est une opération et surtout un site internet où vous retrouverez tous les restaurants qui y participent. Pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, une livraison sera organisée par les bénévoles des deux associations organisatrices. Cette opération permettra de gagner du temps devant vos fourneaux et aussi de faire travailler nos restaurateurs préférés. Bref, rendez-vous sur le site unrestochezmoi53, donc toutattaché.fr, et surtout, bon appétit.
Et c'est valable dès ce midi, Claire, ou il faut attendre les fêtes pour pouvoir en profiter?
Dès ce midi, on peut donc commencer.
Bon, après, il est déjà presque 13h, donc ça va être peut-être un peu compliqué pour ce midi, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur ce site unrestochezmoi53.fr, puisqu'on le sait, c'est très compliqué en ce moment pour tous les restaurateurs. Merci beaucoup, Claire, pour ces initiatives et pour ta présence aujourd'hui dans l'émission.
Je vous en prie.
puisque c'est déjà la fin hein, de l'AJT du local de ce vendredi, mais évidemment... Ça se poursuit, les émissions continuent à l'antenne. À 20h, ce sera Passe-moi le thème, toujours autour de l'année 1970, avec des albums un peu plus confidentiels ce soir. Et puis nous, donc, on se retrouve lundi à 12h15 en compagnie de Claire, sauf si elle nous fait un faux plan, mais non, on y croit. Claire sera avec nous. En tout cas, je vous souhaite un beau week-end et à lundi.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.